Harold Naitachi avec Henri Fourmi.
Chers amis de Radio Lapourdi, bonjour. Le phénomène du changement d'heure qui nous fait passer de celle d'hiver à celle d'été depuis un demi-siècle en France, décidé pour des raisons d'économie d'énergie à la suite du premier choc pétrolier de 1973 et depuis une trentaine d'années dans l'Union européenne, n'est pas très populaire depuis longtemps et fait l'objet de discussions interminables au niveau du Parlement et du Conseil européen pour son éventuelle suppression. Cette mesure avait déjà été préconisée dans le quotidien Le Journal de Paris du 16 avril 1784 par Benjamin Franklin, également dans un souci d'économie d'énergie. Toutefois, à cette époque, l'économie étant majoritairement basée sur le monde agricole, qui vit avec le soleil, l'idée n'avait pas été suivie d'effet. Notons que le séisme révolutionnaire de 1789 allait provoquer un changement d'air d'une autre nature, bien plus radicale et lourde conséquences. Les tribulations de l'histoire ont conduit à de multiples applications. Ainsi, un siècle plus tard, le développement des transports ferroviaires va nécessiter une unification de l'heure sur l'ensemble du territoire français, cela d'autant plus que le télégraphe électrique est quasiment simultané à ce moment. Cela va donc être décidé en 1891 et l'heure de Paris devient l'heure nationale. Le régime du changement d'heure sera mis en place au niveau national plus tard, en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, qui verra en zone occupée l'imposition de l'heure allemande. Cette longue introduction nous conduit à une lecture anachronique, c'est-à-dire non temporelle, de nos changements d'heure actuels en ce début du deuxième quart du XXIe siècle. En premier lieu, l'objectif économique de la mesure apparaît logique, légitime et relativement simple à mettre en œuvre, moyennant quand même un parfait synchronisme des systèmes qui commandent le changement de l'heure, au 10 milliardième de seconde près, sur la foi du changement d'état de l'atome de césium-133. Tous à la fois et partout, ordinateurs et réseaux, téléphones mobiles et réveil matin compris. Les bénéfices industriels, économiques et écologiques de cette opération d'envergure semblent cependant régulièrement contestés, notamment au regard des désagréments des populations concernées, surtout quand il s'agit d'avancer les réveils d'une heure, ce qui se traduit en fait par une heure de sommeil en moins. On gagne ainsi une heure de soleil le soir, mais les travailleurs des champs sont depuis longtemps remplacés par ceux des entreprises, avec des horaires imposés, comme pour les enfants des écoles. D'autant que les nouveaux modes de travail, sur écran, risquent de nous éloigner de plus en plus du soleil et nous obliger à consommer plus de vitamine D et d'écran total, pour attraper un teint bien pâle en sortie d'hiver, mais aussi de séries Netflix. Les poules et autres animaux de nos jardins, ignorant superbement leur anachronisme, ne savent pas que nous ne sommes pas dans le même espace-temps. Curieusement, cela ne semble pas les troubler, mais nous. Dans un second niveau de lecture, la notion de changement d'heure apparaît douloureusement liée à des épisodes guerriers de notre histoire européenne. La coïncidence de cette mesure avec deux guerres mondiales qui ont profondément meurtri notre civilisation occidentale, marque la rupture avec des mœurs d'antan, aux accents de terroir, qui suscitent d'ailleurs une certaine nostalgie, s'exprimant notamment dans certains mouvements écologistes. En effet, il y a comme une tectonique des plaques spatio-temporelles, pour parler richement, qui sépare profondément et éloigne de plus en plus rapidement, non seulement les sociétés encore de tradition agricole notamment, de celles qui sont irréductiblement engagées dans la course effrénée des technologies les plus modernes. Mais il y a surtout un changement de paradigme, de la manière de vivre et de donner sens à la vie, qui s'inscrit dans une part grandissante de la population mondiale. Il ne s'agit pas seulement de théorie quantique, qui met les univers, espace et temps dans des relations qui sortent de nos schémas de mécanique classique, mais d'un bouleversement des modes de vie et de travail engendré par la mécanisation tous azimuts, puis par l'électronique progressivement miniaturisée, qui a conduit à la généralisation de l'informatique et la connexion immédiate et universelle des moyens de communication et de décision du numérique et des réseaux. Le phénomène du changement d'heure semble interagir dans des profondeurs humaines, ontologiques, qui ont pour conséquence des conflits sociaux, économiques et géostratégiques redoutables et parfois violents, comme l'histoire en est parsemée depuis toujours. Mais également, au niveau des personnes, s'installe une dichotomie presque pathologique entre le temps et l'espace de l'activité professionnelle ou autre, et le temps et l'espace de l'unité de chacun dans sa singularité propre et sa vocation personnelle, en tant qu'être unique, irremplaçable, dans sa richesse, ses ombres et lumières. En ce deuxième dimanche de printemps, le changement d'heure de notre société européenne, qui est loin de représenter la référence pour l'ensemble de la planète, connaît cependant une concomitance rare avec l'événement des rameaux, que l'Église célèbre ce même jour dans le monde entier. Les crises, conflits et guerres, dont les échos saturent l'actualité et désespèrent les gens de bonne volonté, nous font espérer l'avènement d'un sauveur qui pourrait enfin mettre l'homme sur la route de son humanité glorieuse, celle de son statut d'enfant de Dieu. Comment ne pas se tromper d'heure ni de sauveur? C'est la foi de l'Église, indépendante des horloges du monde, libre des calculs temporels ou des puissances numériques, qui nous guide et nous mesure dans nos actes quotidiens d'espérance et de charité. Notre foi nous appelle chaque jour à changer d'air. Mais l'heure vient, dit le Christ à la Samaritaine, dans Jean 4, 23-24, comme à chacun de nous. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Les régimes politiques, les constructions et institutions humaines, les plus rationnelles ou généreuses dans leur ambition, quelles qu'elles soient, ne tiennent qu'un rôle contingent dans l'incroyable et divine vocation et mission de chaque humain dans son chemin de sainteté. Sans négliger leurs nécessités ni oublier leurs contraintes et parfois les véritables progrès qu'ils permettent dans leurs sociétés respectives, les personnes qui gouvernent demeurent avec leurs peurs, leur orgueil, leurs objectifs trop terre à terre, autant que les personnes qui sont gouvernées. C'est la suite dramatique de la journée des rameaux vécue par le Christ, qui vient souvent douloureusement sanctionner leur foi dans un sauveur trop humain, et pas suffisamment humble et serviteur, éclairé par sa dimension spirituelle. La perspective de Pâques est déjà là, dans la lumière nouvelle qui remplit de sens notre vie, et lui fait espérer, dans la piété, l'avènement d'une nouvelle ère pour l'humanité tout entière. Merci de votre attention et à la prochaine fois. Sainte fête des rameaux et sainte fête de Pâques.